Mamadou Sall propose une représentation de son spectacle Massa Massa, vendredi 15 avril à 20h, à la maison du quartier de la Bouletterie. Au mois de juin, il sortira son album. Nous l'avons rencontré à la tribu.
Je m'appelle Mamadou Sall, je suis originaire de Mauritanie, mais j'habite à Saint-Nazaire depuis 13-14 ans. Et je suis conteur professionnel, intermittent de spectacle. Aussi, j'ai écrit des albums, des petits livres pour les enfants. Voilà, donc je fais tout ça. Et puis là, pour le coup, je travaille aussi sur un projet qui n'est pas du conte, qui n'est pas dans mon domaine de prédilection, qui est du slam. C'est un nouveau spectacle, du slam et du rap, qui s'appelle Massa Massa. Et donc voilà, j'essaie de varier les propositions et de faire de nouvelles expériences par rapport à mon art et au travail que j'ai fait.
Tu nous as dit que tu étais originaire de Mauritanie, mais du coup, est-ce que tu peux revenir sur ton parcours et pourquoi tu es venu en France et pourquoi tu habites à Saint-Nazaire ?
Ben oui, je suis originaire de Mauritanie, donc j'ai fait mes études en Mauritanie et j'ai d'abord commencé à travailler en Mauritanie en tant que guide. J'ai fait des études en économie en Mauritanie et j'ai commencé le premier travail que j'ai fait en Mauritanie, c'était d'être guide, de travailler comme guide accompagnateur dans le désert, c'est-à-dire de recevoir des touristes. La plupart des gens, c'était des touristes qui venaient de la France ou de la Belgique, en tout cas des touristes francophones. Et donc, je les ai amenés une semaine, deux semaines dans le désert de Mauritanie avec une équipe où on a cuisiné des chameaux, des chameliers. Et donc, on partait comme ça en autonomie une semaine, voire deux semaines dans le désert. Et puisque moi, dans mon enfance, au village d'où je suis né, le village s'appelle Kermour, j'écoutais les histoires, les contes, et ma maman racontait beaucoup, beaucoup d'histoires. Et donc, quand j'ai commencé à travailler en tant que guide, donc la journée, je marchais avec les gens, je les amenais dans des sites touristiques, j'expliquais l'histoire, la préhistoire, tout ça. Mais le soir, il fallait entretenir aussi les gens. Donc, et puisque je connaissais quelques contes, parce que ma mère est conteuse dans mon village, était conteuse, elle est décédée maintenant. Et donc, je connaissais quelques contes que j'ai racontés comme ça. Un jour, dans le groupe qui était avec moi, le groupe de touristes, il y avait une conteuse qui m'a écouté pendant toute la semaine raconter. Et elle m'a dit qu'elle était conteuse professionnelle. Je ne savais pas que c'était un métier d'être conteur. Et moi, j'ai toujours adoré raconter des histoires. Et donc, c'est comme ça que moi, j'ai pris contact avec elle. Je suis venu la première fois en France, c'était 99, 2000, comme ça. Et donc, j'ai fait un stage de conte avec elle. Et après, quand je suis rentré en Mauritanie, j'ai dit, je vais en faire un métier. Et donc, du coup, c'est parti comme ça. Et donc, j'ai fait plusieurs séjours en France pour faire des stages, moi aussi pour raconter, pour aussi faire de la promotion du désert mauritanien, parce que l'agence de voyage avec laquelle j'ai travaillé était installée en France. Et du coup, l'agence, le directeur de l'agence qui m'aimait beaucoup, on était très, très copains. Et il me faisait venir et donc je faisais des stages de conte, mais aussi j'allais faire un peu la promotion du désert de Mauritanie avec des photos, des diapos pour parler de la Mauritanie. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis installé en France parce que j'avais vraiment envie d'en faire mon métier, quoi, de raconter, parce que c'est une manière pour moi de faire connaître mon pays, ma culture, mais c'est surtout l'envie de liberté, de faire quelque chose, de faire un métier où je suis autonome. Moi, j'ai toujours voulu être libre dans mes actions, dans ce que je fais. Et donc, quand j'ai vu que je pouvais faire ce métier-là qui me permettait d'être autonome, de faire ce que je veux, de dire ce que, de porter les paroles que je veux, j'ai décidé d'être conteur. Et donc, j'ai démissionné de mon travail de guide. Et donc, je suis installé comme ça en France, d'abord dans le Nord, à Charleville-Mézières. Et après, je suis venu à Paris. Et c'est en 2007, je crois, que je suis arrivé à Saint-Nazaire. Et depuis, je suis devenu nazérien et mauritanien.
Donc tu viens aujourd'hui pour nous parler de ton spectacle de musique Massa Massa, mais on te connaît surtout pour tes représentations avec des contes. Est-ce qu'il y a une volonté particulière à vouloir passer du conte à la musique ?
Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'aimais vraiment faire des choses différentes. Je fais un spectacle de slam avec des textes que j'ai écrits, alors qu'effectivement je suis conteur. Mais j'ai aussi fait deux spectacles de marionnettes. Et pourtant, je ne suis pas marionnettiste. Donc, j'ai fait un spectacle de marionnettes simple et aussi un spectacle de marionnettes avec des ombres chinoises. Donc, moi, j'ai toujours voulu faire des choses différentes, de faire de nouvelles propositions, mais aussi d'apprendre des choses différentes. Le spectacle Massa Massa, c'est très, très particulier parce que c'est des textes que j'ai écrits et c'est des textes que j'ai toujours voulu partager, des choses que j'ai toujours voulu dire. Et dans le conte, on ne peut pas dire ça. C'est des textes que je ne peux pas mettre dans un spectacle de conte. Parce que le conte, on suggère des choses, on ne va pas directement dire des choses, lire un texte ou dire des choses qu'on a envie de dire. Attention, dans le conte, on dit des choses, mais c'est toujours en passant, comme on dit, autour du pot, en suggérant des choses, en essayant d'amener les gens à réfléchir, mais en tout cas, à ne pas être direct, aussi direct que dans les textes écrits pour être dit, pour être partagés tels qu'ils sont. C'est ce que j'ai pu faire avec ce spectacle Massa Massa. C'était une volonté de dire des choses, des textes que j'avais écrits et que je voulais faire partager et je voulais faire connaître, quoi. C'est ça qui a fait qu'effectivement j'ai eu envie de faire ce spectacle-là. Et j'ai eu la chance de connaître des personnes sur Saint-Nazaire qui étaient déjà dans le domaine, notamment Pamphile Ounsou, qui est lui rap slammer, mais aussi François Geoffroy, qui aussi fait du rap. Et donc, puisque c'est des gens que je connais depuis un bout de temps sur Saint-Nazaire, je leur ai parlé de mon projet. Donc, j'ai écrit mes textes. La première fois que j'ai écrit les textes, je les ai envoyés à François, qui m'a fait des retours. Et après, j'ai, avec Pamphile, qui a l'oreille musicale aussi, on a travaillé sur les refrains. On a travaillé maintenant avec un musicien, Thibaut Châtelier, qui lui, il est en studio de musique. Et donc, le projet s'est agrandi comme ça. Après, Camille, qui chante, nous a rejoint. Après, Rémi, batteur, nous a rejoint. Et c'est comme ça que petit à petit, le groupe Massa Massa s'est formé. Le spectacle qui s'appelle aussi Massa Massa a vu le jour. Et donc, on l'a joué cet été. La première fois, c'était la fin du mois d'août. On l'a joué deux fois en extérieur. Et on a eu de très, très bons retours par rapport à ça. Et on continue de travailler dessus. Et j'ai aussi contacté un metteur en scène qui s'appelle Hugues Charbonneau, qui habite à Rennes. Lui, c'est un très, très grand comédien, musicien, chanteur, qui dirige une structure sur Rennes qui s'appelle la Péniche Spectacle. Et c'est des gens avec qui je travaille depuis plusieurs années dans le domaine du conte, parce que chaque année, je vais raconter dans leur péniche. Et donc, on se connaît depuis très, très longtemps avec Hugues. Et quand je lui ai parlé de ce projet de Massa Massa et de mon envie de travailler avec un metteur en scène, pour vraiment mettre en scène ce texte, il a été très enthousiaste et on a travaillé dessus et qu'on continue de travailler.
Alors, si je dis pas de bêtises, Massa, ça veut dire courage en Wolof. Alors, pourquoi ce nom Massa Massa?
La langue Wolof, c'est ma langue maternelle. Ça ne se voit pas, mais je suis métisse. Mon père est Peul. Les Peuls en Afrique de l'Ouest, c'est des voyageurs, c'est comme des gens du voyage ici. C'est des gens, mais par contre, c'est des gens qui ont leur troupeau de moutons ou de chèvres et qui vont là où le troupeau peut trouver des choses à manger. Donc, ils ne sont pas attachés à la terre. Ils parlent une langue qui s'appelle la langue Peul. Voilà. Ma mère, elle est Wolof. Les Wolof sont terriens. Les Wolof, c'est des paysans qui cultivent la terre, qui restent sur place et qui parlent la langue Wolof. Donc, ma maman est Wolof et mon père est Peul. Massa, Massa, donc, c'est du Wolof, la langue ma mère. Massa veut dire courage, courage. Et quand un Wolof te dit Massa, eh bien, je dis toujours que le mot courage ne traduit pas tout ce qu'englobe le mot Massa en Wolof. Parce que quand un Wolof te dit Massa, il y a un élan d'empathie et d'amour qu'il met dans ce mot-là. C'est un, il y a un élan qui met, c'est dire Massa, Massa, courage, courage. Puisque dans ce texte-là, il y a des thèmes différents que j'ai dit. Je parcours aussi des moments différents, à la fois de ma vie et puis de mon vécu. Si je ne parle pas que de moi, je parle aussi d'autres personnes qui sont, par exemple, des fois dans le besoin, qui sont laissées au bord du chemin. Donc, Massa Massa, c'est vraiment tout le texte. Quand on parcourt le texte, les différentes chansons, on peut trouver le Massa Massa, courage, courage. C'est en fait un fil rouge de ce spectacle-là. Mais en même temps, c'est un spectacle qui est gay, où on joue, on chante, il y a des refrains qu'on peut reprendre et danser, mais il y a des thèmes forts que j'avais envie vraiment de partager, de dire, quoi.
Justement, est-ce qu'il y a des thèmes particuliers que vous avez envie d'évoquer à travers ces chansons?
Oui, il y a des thèmes, ouais. Il y a plein de thèmes en fait, que j'ai développé. Le premier morceau, par exemple, en fait, le Massa Massa, le spectacle est constitué de 9 morceaux. C'était 10 morceaux, on a enlevé un morceau. Et c'est 10 morceaux qui englobent ce spectacle-là. Le premier morceau, je vais les évoquer, hein. Le premier morceau, c'est je parle du partage de l'Afrique. Mais je ne donne pas de leçons d'histoire, je ne parle pas de comment l'Afrique a été partagée d'une manière historique. Je parle en image de l'Afrique, de ce continent-là, qui est comme un gâteau qui a été partagé à l'insu des Africains eux-mêmes. Et donc voilà, je parle du partage de l'Afrique avec humour, comment ça a été fait, et les conséquences qu'il y a, qu'on vit aujourd'hui de ce Patras de l'Afrique. Le deuxième morceau, c'est, je parle de mes références, des personnes qui m'ont nourri à la fois spirituellement, dans mes lectures, dans mes échanges. Ce morceau, mes références, je cite toutes ces, ben, la plupart de ces personnes-là. D'abord mes parents, d'abord c'est les premiers que j'ai cités. Après, il y a d'autres personnalités, Amadou Ampateba, Aimé Césaire, Nelson Mandela, Léopold Sédar Senghor, Toni Morrison, Desmond Tutu, toutes ces personnalités qui traversent encore ma vie et qui me nourrissent. Le troisième, ce sont les racines. Ça s'appelle les racines parce qu'en fait, on se pose souvent des questions sur d'où on est, qui on est. Et surtout les personnes qui ont une partie de leurs parents qui viennent d'ailleurs, ou même des personnes qui sont ici et qui... Parce qu'en France aussi, on peut venir du sud ou du nord et puis habiter quelque part. Des fois, on se pose des questions. J'ai rencontré des amis qui sont français et qui se disent « Ouais, mais moi, je ne sais pas d'où je suis. Mes parents se sont déplacés et puis je ne me suis pas attaché à un endroit précis. » Et donc, les racines, c'est ça. Je parle des racines, qui on est et qui sont, c'est quoi nos racines. Et donc, je me pose la question par rapport à ça et je donne mon opinion sur, par rapport à ça, comment la façon dont moi je vois ça. Quoi. Là où on est, c'est comme un arbre. Quoi. L'arbre, il est planté, ses racines sont là, donc l'arbre, il est là. Donc, on n'a pas besoin de chercher ailleurs. On est là où on est. Quoi. Donc, c'est mon opinion. Hein, mais voilà. Mais je le conçois et comme ça, le problème des racines. Quoi. Il ne faut pas aller chercher ailleurs les racines. Le quatrième, ça s'appelle « Qui veut la paix, prépare la paix ». Dit « Qui veut la paix, prépare la guerre ». Mais moi, je dis « Qui veut la paix, prépare la paix ». Parce que la paix, c'est quand on perd la paix qu'on connaît la valeur de la paix. Donc, je pense qu'il faut qu'on cultive la paix. Le morceau qui suit, le cinquième morceau, bon, là, je relate quand même un problème douloureux. Des événements qui se sont produits dans mon pays. Et j'ai assisté à ces événements-là et avec des conséquences graves. Des personnes qui ont été tuées, déportées. Ça s'est passé en 89 et donc je parle de ce moment-là. Et moi j'étais là, j'étais à Nouakchott. Nouakchott, c'est la capitale de la Mauritanie et les événements m'ont trouvé là-bas. Et donc voilà, je parle et pour la première fois, je mets... Ce texte-là d'ailleurs, c'est la base, c'est ce qui m'a amené à écrire, à faire ce spectacle-là. Parce que durant tout mon parcours de conteur, j'ai toujours essayé par des allusions, à mettre un conte qui parle de ce thème-là dans mes différents spectacles, mais je n'arrivais pas à le mettre. Quoi. Même si le fil conducteur de mon travail de conteur, c'est l'autre aussi, c'est l'altérité, ça a toujours traversé mon travail. Mais ce moment-là, j'ai toujours voulu le mettre, mais je n'ai jamais pu le mettre dans un spectacle de conte. Et ça, c'était vraiment, Massa, c'était le moment, c'était là où je pouvais le dire ce qui s'est passé réellement, le partager et pour l'histoire aussi, parce que encore aujourd'hui, les événements se sont passés il y a 30 ans, et encore aujourd'hui dans notre pays, les gens, ça reste une plaie béante. On a toujours, il y a des crispations, on a peur d'en parler. Et voilà, là, j'ai vraiment voulu parler de ce moment douloureux qui s'est passé chez nous pour dire oui, plus jamais ça, quoi, plus jamais ça. Après, celui qui suit, c'est un morceau très léger, ça s'appelle Lirujan, le bébé du serpent. Lire en langue wolof, c'est le bébé, le petit. Et donc, ben, je parle de quelque chose de grand, de fort, de douloureux, mais il faut parler aussi des fragiles. Il faut parler des petits, des gens qu'on n'adresse pas la parole, qu'on ne regarde pas, et pourtant ils sont importants. Donc pour moi, le plus petit, le plus faible, c'est qui? Mais un bébé du serpent, le vent, le souffle, le serpent, le petit serpent, il s'envole. Et donc j'ai dit non, il faut faire attention à ces petits-là, il faut, voilà, parce qu'il y a quelque chose. C'est pas parce qu'on est petit qu'on est faible qu'on ne doit pas nous respecter, quoi, et tout ça. Quoi. Celui qui suit s'appelle « Au bord du gouffre ». Là, je parle vraiment de trois personnages qui sont laissés pour compte, quoi, qui sont au bord du chemin. Des gens honnêtes, quoi, qui ne tendent pas la main, qui ne font pas le mendiant dans la rue, qui travaillent pourtant, mais qui n'y arrivent pas. Il y en a qui travaillent, qui n'y arrivent pas. Mais un autre, par exemple, un jeune qui finit ses études, tous ses diplômes, il n'y a pas de boulot. On lui dit, tu n'as pas d'expérience, on n'a rien pour toi, tout ça. Et c'est frustrant de se retrouver. Moi, je me suis retrouvé dans cette situation-là quand j'ai fini mes études aussi. De se dire, voilà, il n'y a rien, quoi. C'est par hasard que j'ai trouvé le métier de guide. Moi, j'ai fait économie, sciences économiques, donc gestion des entreprises. Moi, je voulais travailler dans une banque. Enfin, bah, je n'ai pas trouvé de boulot, quoi. J'ai pris ce que j'avais, ce que sur place, quoi. L'avant-dernier morceau, c'est un morceau où c'est la colère qui traverse ce morceau parce que je parle de certains despotes, dirigeants, dictateurs, surtout africains, qui sont en place depuis plusieurs années. Il y en a qui sont 30, 40 ans. président et qui reste encore là, qui trafique les constitutions, qui se font réélire à chaque fois, qui ramasse l'argent et qui l'investissent ailleurs, pas en Afrique. Et donc voilà, c'est vraiment ce morceau-là, c'est la colère qui traverse ce morceau-là, et j'avais envie aussi de parler de ça, de cette colère-là, de sortir tout ça. Et le dernier morceau de ce spectacle, c'est aussi ma vie, quoi. C'est le lien que je fais entre mon village d'origine qui s'appelle Keur-Mour. Il faut savoir que Keur, en langue wolof, veut dire la même chose que Ker en breton. Ker en breton, c'est chez quelqu'un. Ker en wolof, c'est chez quelqu'un. En fait, on est des cousins avec les bretons. Et donc, mon village s'appelle Keur-Mour. Et Mour en wolof, c'est la chance. Donc, Keur-Mour, le village de la chance. Et donc, je fais un lien entre Keur-Mour, mon village d'origine, et Saint-Nazaire, ma ville d'adoption. Je suis arrivé à Saint-Nazaire et je me suis tout surpris ici. J'ai des amis et c'est une ville que j'aime bien. Donc, j'ai voulu vraiment rendre hommage à ces deux villes, à ces deux lieux qui sont maintenant. Et comme j'ai dit sur les racines, je suis arrivé à un moment où, de mon histoire, de ma vie, où j'ai dit, ouais, je n'ai pas à choisir, quoi. Je n'ai pas à choisir entre être Mauritanien ou être Saint-Nazairien, Keur-Mouran, non. Je suis d'ici, mais je suis aussi de là-bas. Mais je suis de là-bas, mais je suis aussi d'ici. En fait, c'est ce refrain là qui traverse le morceau. Je suis d'ici et de là-bas, mais aussi d'ici. Je suis d'ici et de là-bas, mais aussi d'ici et de là-bas. Voilà, Massa.
Du coup, tu nous as dit, dans le premier morceau de Massa, tu parlais notamment de cette Afrique qui a été partagée, finalement des conséquences de la colonisation. Pourquoi c'est important pour toi d'en parler et de revenir sur cette histoire ?
Oui, parce qu'aujourd'hui, si on voit beaucoup de problèmes, des guerres, des problèmes de frontières dans les pays africains, entre Africains la plupart du temps, des fois on se pose des questions, mais pourquoi ils n'arrivent pas à être d'accord ? Pourquoi ces frontières-là qui sont tracées, pourquoi c'est pas respecté ? Pourquoi ces ethnies-là et pourquoi... En fait, la plupart de ces conflits-là résultent de ce partage de l'Afrique. Parce que l'Afrique, quand les Européens ont partagé l'Afrique, et le partage s'est fait à Berlin, en Allemagne. Il n'y avait que des Européens autour de la table, comme je parle du gâteau. Il n'y avait pas d'Africains, donc ils étaient là, c'était des partages de territoires. Quand ils se partageaient les territoires, mais dans ces territoires-là, il y a des gens qui vivaient. Ils n'ont pas fait attention à ces populations qui vivaient là. Ils ont juste partagé avec des lignes tout droites. Si vous regardez la carte de l'Afrique, les lignes sont droites. L'exemple que je connais le plus, c'est le partage des frontières entre la Mauritanie et le Sénégal. Moi, mon village, Keur-Mour, est situé au bord du fleuve Sénégal, au sud de la Mauritanie. Quand tu es à Keur-Mour, tu vois... Il y a le fleuve qui est là et tu vois des villages là-bas. De l'autre côté, c'est le Sénégal. Avant, c'était un peuple. Le fleuve n'était pas la frontière. Le fleuve était un moment de rencontre entre les gens qui habitaient de l'autre côté et des gens qui habitaient de ce côté-là. C'est des cousins, des familles qui étaient là, qui traversaient le fleuve avec des pirogues, qui avaient des champs ici, des boutons là. Et un bon matin, ils se réveillent et disent « Attention, maintenant, c'est là la frontière. » C'est le Sénégal là-bas, vous êtes Mauritanien. Et donc, il n'y a plus de... Tu vois. Et du coup, les gens se posent la question, mais c'est quoi Sénégal, c'est pas Mauritanien? Bon, j'étais pas là parce que c'est il y a très très longtemps. Mais aujourd'hui, et puis entre la Mauritanie et le Sénégal, il y a le fleuve. Mais entre la Mauritanie et le Mali, il n'y a rien. C'est du sable. Tu entres au Mali en partant de la Mauritanie, tu ne sais pas que tu as traversé une frontière. Et donc, la plupart du temps, c'est ça. Et les populations ne comprenaient pas pourquoi on les a séparés comme ça. Et les nouveaux États africains, quand ils sont arrivés, ils ont respecté le partage. Bon, peut-être qu'ils ne voulaient pas aussi revenir sur les... Mais ce partage-là continue de créer des problèmes encore aujourd'hui en Afrique. J'ai voulu parler de ce problème de partage pour dire que voilà, c'est vrai, il y a des problèmes en Afrique. Effectivement, il y a des problèmes qui sont causés aussi par les Africains. Il ne faut pas se voiler la face. Mais il y a des problèmes aussi que les Africains ont hérité de ce partage-là, de la colonisation bien sûr, et qui continue de nous créer des problèmes aujourd'hui.
C'est dans votre avant-dernière chanson que vous parlez de votre double identité nazérienne et mauritanienne. Est-ce que ça a une importance particulière pour vous de revendiquer notre identité, même quand il y en a plusieurs ?
Pour moi, c'est très important. Mais aussi pour les enfants, les jeunes et les autres personnes qui se posent ces questions-là. Parce que des fois, quand tu parles avec des enfants d'origine africaine, qui sont nés en France, hein, moi, je n'ai pas rencontré des enfants d'origine malienne, mauritanienne ou sénégalaise. Quand j'étais guide dans le désert mauritanien. Il y avait des voyages comme ça, des mairies de région, en région parisienne qui envoyaient des jeunes dans le désert de Mauritanie. Et moi, j'en recevais pas mal pendant les périodes de vacances. Et ces jeunes-là, qui sont la plupart du temps, c'est des jeunes d'origine algérienne, malienne, mauritanienne. Et quand ils arrivent là, quand on discute dans le désert de leur identité, pour eux, c'est des Africains. La plupart du temps, ils ne comprennent pas la langue de leur pays d'origine. Ils ne connaissent pas leur pays d'origine. Moi, je leur dis, mais vous n'êtes pas Algérien, vous n'êtes pas Sénégalais, vous n'êtes pas Malien, ni Mauritien. Vous êtes des Français. Il faut que vous... Voilà, c'est vos parents qui... Ou même, des fois, c'est les grands-parents qui étaient en Afrique. Mais certains d'entre eux, leurs parents sont nés en France. Mais il y a aussi ce truc-là qui se disent, non, ils n'arrivent pas à intégrer le fait que, non, ils sont nés là, ils ont grandi là, ils ne connaissent pas leur peuple. Il faut quand même, à un moment donné, se dire, voilà, mon pays, il est là. Après, le pays d'origine, si toi, tu aimes ton pays d'origine de tes parents, tu y vas, tu considères toujours que tu as une partie de ce pays-là. Mais il y a vraiment beaucoup de gens qui ont ce problème-là de se diviser. Non, moi, je ne suis pas d'ici, je suis de là-bas. Non, mais je vis, voilà. Et moi, je me dis, à un moment donné, il faut se dire la question. Pourquoi choisir, quoi? Je ne choisis pas. Parce que j'ai maintenant des influences des deux pays. Et moi, ce mélange-là, ça, pour moi, c'est important. Mais ça aussi, je pense que c'est un cheminement aussi. Il faut y réfléchir, il faut travailler sur soi-même et se dire, voilà. Moi, en tout cas, je suis arrivé à un point où je dis, je ne choisis plus, je suis d'ici, mais je suis de là-bas. Quand je vais en Mauritanie, des fois, je reste un mois en Mauritanie, mais au bout d'un mois, j'ai envie de rentrer en France. Et je reste ici quelques mois. J'ai envie aussi de retourner en Mauritanie, parce qu'en Mauritanie, il y a mes filles, il y a mes parents, il y a mes proches, cousins. Mes parents sont décédés, mais mes proches, mes cousines, mes frères et sœurs. Et cette ambiance-là aussi, des fois, ça manque, donc je vais là-bas. Mais quand je vais là-bas, d'ailleurs, quand je vais là-bas, on me dit, mais toi, tu es un Français maintenant, tu vois. Si, mais tu es un Africain. Non, mais je suis à la fois Africain, et Mauritanien et Français, donc je suis dans les deux cultures. Et moi, je dis, voilà, il faut arriver à se dire, voilà, il ne faut pas choisir. Et on est d'ici et on est aussi de là-bas. Je suis dans un projet de création dans une école à Saint-Nazaire, à l'école Albert Camus, élémentaire et maternelle. C'est une création d'un spectacle qui va durer toute l'année. Là, on est en train de construire les histoires. Au début de l'année, on a fait un lancement avec mes amis de Massa Massa, avec Thibaut et Camille. Donc, on a fait donc trois morceaux, dont celui-là, je suis d'ici et de là-bas. Il y avait aussi des parents qui étaient là, il y avait les enfants et leurs parents. Quand des parents d'élèves qui étaient là, quand je chantais ce morceau-là, quand ils me rencontrent, ils me disent oh, « ça nous a fait du bien ». Ils me disent « nos enfants, ils chantent souvent, je suis d'ici et de là-bas ». J'ai dit « c'est important de leur dire qu'ils sont d'ici et de là-bas ». De là-bas, mais aussi d'ici. Ils sont la double culture, c'est une richesse. Ce n'est pas, il ne faut pas se diviser. Non, je vis ici, mais je suis, mon pays, c'est là-bas. Non, tu es là. À un moment donné, tu habites là. Mais après, si tu veux vraiment comprendre là-bas, elle va là-bas, mais il faut te dire que tu as les deux. C'est forcé, tu es entre les deux cultures et il faut les assumer, quoi. C'est une richesse.
Est-ce qu'il y a aussi l'idée, c'est assez positif du coup, de se dire qu'il y a les racines qu'on reçoit, mais il y a aussi les racines qu'on se crée?
Ben oui, moi je pense que c'est ça. Il faut aussi arriver à un moment où on crée nos racines, parce que comme un arbre qui pousse quelque part, ben il va envoyer ses racines, il va s'enraciner, il va vivre, il va puiser de la matière, il va se nourrir du sol sur lequel il est. Mais c'est important, on se crée aussi nos racines, on les prend mais on les donne, quoi. On en hérite mais on en donne aussi. Mais oui, c'est le donnant-donnant, en fait. Je pense que c'est important de se dire qu'on reçoit, mais on donne. Et puis, donc là où on est, je vis en France depuis quand même pas mal d'années. Et je reçois des choses. Mon métier de conteur, je l'ai appris en France, en fait. En Mauritanie, j'ai raconté des histoires comme on le raconte autour du feu, parce que c'est comme ça que je voyais les conteurs et les conteuses traditionnelles. Mais le conte en spectacle, c'est ici, en France, que je l'ai appris. Et donc, moi, j'ai appris des choses. Et quand je retourne en Mauritanie, je fais des spectacles. J'ai encadré des jeunes conteurs et conteuses de Mauritanie qui, aujourd'hui, racontent dans les écoles. Et donc, pour moi, c'est une richesse formidable. Je prends, j'apprends, je leur donne des trucs, ils apprennent et puis ils partagent aussi. Donc, mais c'est super, cette richesse-là. Moi. Ça me nourrit et pour moi, je pense que c'est important.
Ton spectacle de musique Massa Massa va être adapté en album-livre. En quoi est-ce que ça peut compter d'être adapté comme ça?
C'est une très très bonne question parce que je n'ai pas évoqué l'album et le livre depuis qu'on a commencé à discuter. Effectivement, parce que c'est aussi une manière de faire connaître ce spectacle, ces textes. Quand je fais un album, ça permet de faire la promotion, de partager avec le plus grand nombre ces morceaux, ces messages qui sont dans le texte. Parce que tout le monde ne va pas venir voir des spectacles. J'en ai fait 3 et on va faire le quatrième spectacle vendredi prochain, le 15 avril, vers 20h. À la maison de cache et la bouletterie. Voilà, on va faire le spectacle. Donc tout le monde ne va pas venir voir les spectacles, les concerts. Si on fait un disque, ça peut toucher beaucoup plus de personnes. En plus, on fait un disque numérique. Et pour les jeunes, ça va être plus simple parce que les disques physiques, la plupart du temps, les gens ne les utilisent pas. Mais quand c'est un disque numérique, les gens peuvent télécharger, utiliser, c'est important. Et le livre, parce que j'ai apporté un exemplaire. Il n'est pas encore fini. Bon, ça, c'est l'affiche de Massa Massa. C'est tous les textes du spectacle qui sont illustrés. Voilà, ça va être un petit livre, 5, quelque chose comme ça. Oui, ce sera un joli objet, illustré par Véronique Derouin. Véronique Derouin, c'est une illustratrice nazérienne avec qui je travaille depuis pas mal d'années. On a sorti après 4 albums, compte. Et donc, elle a illustré tous les textes de Massa Massa. Et donc, le livre aussi, ça, c'est une manière aussi de faire connaître ces textes-là à beaucoup, beaucoup de personnes. Par exemple, quand j'écris, par exemple, des livres, il y a un musée en Mauritanie où je vais, qui commande mes livres et donc je les envoie. Donc, c'est aussi une manière de faire connaître ces textes-là, là-bas. Il y en a qui prendront peut-être, acheteront le disque ou le téléchargeront, mais les livres... Ça reste. Et puis pour les enfants, c'est important, même pour les adultes, et d'avoir ces textes-là illustrés avec... Pour moi, c'était important de faire les deux, un disque et un livre, comme ça, pour la promotion du livre, voilà, Kermour et Saint-Nazaire. Pour moi, c'était important de faire les deux.
Et du coup, plus concrètement, quand est-ce que sortira l'album? Comment on pourra se le procurer? Tout ça.
Concrètement, l'album, nous, on entre en studio à la fin de ce mois, à la fin du mois d'avril. Et le studio, il est à Saint-Malo de Garsac. C'est le studio de Tiane. Je fais la pipe à Tiane. À la fin du mois d'avril, on va entrer en studio. Moi, je pense qu'au mois de juin, au plus tard, le disque sera sur les plateformes. Et le livre, là, on va... Véronique, elle a fini ses illustrations. Ce qui nous reste, c'est le financement de ce livre-là et puis aussi le financement du studio parce qu'il y a des frais qu'on engage. Et du coup, pour financer ces différentes charges, eh bien, nous allons faire un financement participatif. Crowdfunding, comment ça on l'appelle. Et donc, on va lancer ce financement-là à la fin du mois d'avril aussi. Ce sera en ligne. Je vous donnerai, si vous voulez bien, le lien. Donc, voilà, si tu participes à hauteur d'un montant, c'est tout sera détaillé. Tu peux avoir le livre et tu peux aussi avoir le disque.
Bah, merci d'être venu.
Merci à toi.
Mais merci à tous les 3.
Merci beaucoup Mamadou Sall. Le concert, c'est vendredi 15 avril à 20h à la Maison de quartier de la Bouletterie, un spectacle qui clôture les semaines contre les discriminations et le racisme.